La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 38e émission de la Semaine de l'Art, avec cette fois-ci deux invités, Guillermo de Osma et Philippe Cross, respectivement président et directeur de la Fondation Bemberg à Toulouse, une institution qui a été récemment très active en achetant un très beau tableau de Nicolas Tournier, dont on a parlé sur la Tribune de l'Art. Donc bonjour messieurs.
Bonjour monsieur, bonjour Didier, ravi d'être là.
Donc, peut-être qu'avant de commencer de parler de la Fondation Bemberg, de monsieur Bemberg, comment cette collection a été constituée, est-ce que chacun de vous peut présenter son parcours jusqu'à la Fondation Bemberg? Donc peut-être monsieur de Osma, vous êtes espagnol?
Moi je suis espagnol, et... historien d'art, pour faire ça un peu vite, parce que sinon on peut s'éternisser. Voilà, j'ai fait histoire de l'art à Madrid, après ça... J'ai eu une espèce de double carrière entre le commerce, surtout une maison de vente, Sotheby's, que tout le monde connaît, et mes recherches qui m'ont amené à travailler au musée des Arts Déco et des Tissus de Lyon pendant une année, préparer une grande exposition pour le musée. Après ça, j'étais aux États-Unis, de nouveau chez Sotheby's, et après Madrid, où j'ai ouvert une galerie très concentrée sur les avant-gardes historiques.
Donc pas du tout la peinture ancienne?
Pas tellement la peinture ancienne, mais ma formation, j'étais élève d'Alfonso Pérez Sánchez, qui était vraiment qui est un mythe pour la peinture espagnole du XVIIe, pour la peinture espagnole baroque.
Alors on reviendra sur la manière dont vous êtes arrivé comme président de la Fondation Bemberg. Je me tourne maintenant vers Philippe Cross, vous-même, donc, présentez un peu votre carrière et votre parcours.
Oui, pour ma part, donc, une formation double d'abord, pour moi la plus intéressante d'historien d'art avec l'École du Louvre. Et en parallèle, en fait, des études à l'Institut d'art et d'archéologie, donc à Paris 4, avec notamment une maîtrise avec Antoine Schnapper sur Lyotard, et à l'École du Louvre, une spécialité encore réunie qui n'avait rien à voir, qui était en fait la sculpture de la Renaissance. Donc voilà, une formation un petit peu double, mais qui allait dans le même sens. Si ce n'est qu'après après avoir fini la muséologie, après la fin de l'École du Louvre, donc dans la mesure où j'avais une vision assez précise du genre d'institution où je voulais travailler, à savoir dans le cadre muséal, mais pas nécessairement peut-être un musée public, j'ai commencé des études de droit international privé, en fait en droit des affaires au Panthéon, à Paris 1. Voilà, que j'ai arrêté en DEA, et c'est un petit peu, j'allais dire, ce double cursus d'historien d'art, mais également de gestionnaire, en fait, qui a un petit peu fait la différence au sein de la Fondation, puisque je crois qu'à l'origine, il était question d'avoir une personne à la tête du musée sur le plan scientifique, un conservateur, et un petit peu un directeur. Et puis comme la structure est tout de même assez petite, il y a eu l'idée, en fait, de fusionner les deux postes, ce qui m'a peut-être moins permis de me consacrer à la collection, mais qui était intéressant dans la mesure où j'ai eu une vision assez rapidement... globale d'une institution culturelle privée.
Alors, peut-être d'abord rappeler qui était M. Bemberg, comment cette fondation a été créée, qui veut... M. Cross, vous continuez, et on verra ensuite avec M. Josma comment vous êtes arrivé à cette fondation.
Chronologiquement, je crois que Guillermo a rencontré M. Bemberg avant moi, donc c'est intéressant peut-être de parler.
Suivons l'ordre chronologique.
La chronologie, absolument.
D'accord, suivant l'ordre chronologique, oui, c'est vrai, j'ai rencontré M. Bemberg au début des années 80, je venais d'arriver à New York, je suis arrivé fin 80, et par un grand ami collectionneur, un diplomate espagnol, qui était un grand ami à lui, c'est comme ça que je le rencontrais, et on est devenu amis assez vite, malgré la grande différence d'âge. Je crois que... il aimait bien ce jeune espagnol qui s'intéressait tellement aux choses de l'art, qui avait fait sa carrière dans l'art et qui voulait la faire dans l'art. Et voilà, on est devenus amis et on s'est voyés assez régulièrement à New York.
Alors, qui était M. Bemberg?
M. Bemberg était un personnage quand même un peu secret, d'une grande discrétion, mais c'était une famille franco-argentine. qui a fait sa fortune au début en Argentine, à la fin du milieu fin 19e, surtout dans la bière, c'est-à-dire en Argentine, on demandait une quilmes, indépendamment une bière, et la bière quilmes, c'était justement la bière de la famille Bamberg. Alors, c'était une famille très fortunée, qui a toujours eu un versant humaniste et très intéressé par l'art, et surtout dans son cas particulier, bon, dont il avait un cousin quand même qui avait été très ami de Picasso, qui avait travaillé avec Picasso, et qui, dont il y a plusieurs portraits de Picasso de son cousin Bamberg. Mais Georges Bamberg est un personnage curieux parce qu'il avait été une formation musicale très importante. En même temps, il était écrivain. Et c'était quelqu'un toujours plein de surprises, qui gardait toujours une carte dans sa poche. C'est un peu mystérieux. Je me souviens un jour, il m'a dit « Accompagne-moi en bas de la ville, on va aller à un théâtre off-Broadway ». J'ai dit « Bon, pourquoi pas, j'avais pas grand-chose à faire, je l'accompagnais ». Et finalement, ce qu'on est allé voir, c'était une œuvre de théâtre qui, par lui, qui était présentée off-Broadway à New York. C'est un personnage un peu comme ça. C'est un personnage assez fascinant d'un côté. De l'autre côté, assez discret, assez intime, assez secret. C'était pas toujours facile de connaître et de savoir quelle était sa pensée. Mais en tout cas, sa collection l'intéressait énormément. Et assez tôt, il a pensé à cette idée de la fondation. Il n'avait pas d'enfant.
Il était français et argentin.
Elle était français et argentin. Et il habitait, disons, entre Paris, New York et l'Argentine. C'était vraiment ces trois pôles d'action. Et un jour, je me souviens, elle me convoque un déjeuner dans son club à New York. Et il me parle de cette idée de faire une fondation. Et il avait vu un petit endroit en Suisse, un patelin perdu, un village perdu à côté d'un lac. Ça, c'était une chose, non. Je vois que Philippe rigole, mais c'était tout à fait lui, un endroit complètement perdu. Et je lui demande, et pourquoi là? Vous n'avez aucun contact avec la Suisse, votre famille n'a pas des liens particuliers avec la Suisse. Et il me dit, non, parce que je pense qu'il n'y aura pas de visiteurs, ce sera parfait. J'ai dit, bon, faire une fondation pour ne pas avoir des visiteurs, c'est quand même une espèce de paradoxe ou de contresens. Et pourquoi pas l'Argentine? Alors l'Argentine, c'était absolument hors question. Et là, il m'a raconté une chose que je connaissais déjà, que sa famille, les intérêts de sa famille et toutes les entreprises de la famille avaient été nationalisés au moment de Perón, et ça avait été une époque très, très dure pour la famille Bamberg. Alors il avait gardé, évidemment, un souvenir... mixtifié de l'Argentine. Et finalement, il a eu cette extraordinaire chance de que la ville de Toulouse a réagi à ses intérêts. Le maître de l'époque étant le Baudis, a compris l'intérêt que pouvait avoir pour la ville de Toulouse d'avoir cette belle fondation, cette belle collection. Et tout ça, bon, on peut reparler de ça après si vous voulez, sinon je continue à vous raconter des détails.
On parlera bien sûr de la collection, et on viendra peut-être sur le contenu de la collection et sur pourquoi, comment vous êtes arrivé finalement à la présidence. Mais là, c'est là quand M. Cross entre en scène, puisque vous connaissiez M. Bamberg avant Philippe Cross, mais Philippe Cross, vous êtes arrivé comme directeur de la fondation à l'ouverture.
Oui.
Et c'est de rappeler. Alors, rappelez-nous un peu plus, effectivement, comment s'est passé, donc, plus de détails, comment s'est passé cette ouverture, et puis votre arrivée, et les statuts, qu'est-ce que sont les statuts de cette collection,
voilà. Alors, moi, je suis arrivé un petit peu après la bataille, si bataille il y a eu, juridique, pas vraiment juridique, en fait, la quête de l'endroit idéal qui était Hôtel d'Acesa, la tractation entre la ville et les académies qui occupaient le bâtiment pour arriver à...
Vous direz un mot d'ailleurs de l'Hôtel d'Acesa aussi.
Voilà, une solution, en fait, d'occupation honorable, ce qui a été trouvé avec beaucoup de brio par... Monsieur Baudis à l'époque, et donc il y a eu ma rencontre avec Monsieur Bamberg. Moi, effectivement, j'avais 27 ans, donc je sortais de mes études, je sortais un petit peu fourbu parce que faire plus de 4 ans de droit après avoir mangé son pain blanc, c'est-à-dire avoir fait l'école du Louvre, c'était un petit peu démoralisant. Donc voilà, j'étais sur le point d'aller travailler, je pense, aux États-Unis. J'avais des contacts plutôt aux États-Unis, puisqu'une structure privée en France, en 94, il y en avait très peu. Donc, c'était soit la Suisse, soit effectivement l'Angleterre, un petit peu, mais surtout les États-Unis. Et puis, il y a eu cette proposition et la rencontre, donc, avec M. Bamberg. Deux entretiens successifs. Le premier ne peut pas vraiment être qualifié d'entretien, dans la mesure où, même si j'ai reçu un excellent accueil à l'heure du thé, Le dialogue n'a pas été très, très nourri. Heureusement, il y avait une tierce personne. Je pense que c'était un rendez-vous d'observation un petit peu pour M. Bimbert, qui devait s'inquiéter de voir une personne aussi jeune prendre potentiellement en fait la direction du musée. Et puis bon, il y a dû y avoir dans l'échange quelque chose qui lui a convenu, puisqu'il y a eu un second rendez-vous où il a un petit peu plus parlé, mais comme disait Guillermo, c'était quelqu'un de très secret et surtout quelqu'un qui s'exprimait assez peu. Et donc, au gré un petit peu des questions qu'il m'a posées sur mes affinités, bon, les réponses étaient aussi un petit peu ambiguës de ma part, puisque d'un côté, j'avais fait cette maîtrise donc à Paris 4 sur la peinture française du 18e. Il y avait une dimension finalement chez moi très généraliste, qui en dernière analyse correspondait assez bien à la collection, mais qui n'était pas tout à fait évidente. Et puis tout d'un coup, M. Bimbert m'a dit, je vais vous montrer quelque chose, mais vous ne connaissez sûrement pas, c'est quelque chose de très pointu, ça n'intéresse pas les gens. Donc il y avait toujours chez lui cette sorte d'auto-prévention quand il présentait quelque chose qui lui tenait à cœur. Et puis entre la salle à manger et la cuisine, il m'a amené dans l'office donc où était rangée la vaisselle, dans un petit placard qu'il a ouvert. Il y avait une collection de bronze de la Renaissance italienne absolument extraordinaire, d'à peu près à l'époque 50 ou 60 bronzes de très très grande qualité. Et il se trouve, non pas par une extrême érudition de ma part, mais par le plus grand des hasards, que, comme je lui ai expliqué, c'était ma spécialité, donc au Louvre, notamment avec M. Gabory, 3 ans donc vraiment sur la sculpture italienne de la Renaissance et surtout les petits bronzes de Veneto Padoue. Donc par le plus grand des hasards, dans un sujet finalement assez obscur pour la plupart des amateurs d'art, je me suis trouvé en terrain de connaissance. Et je pense que c'est peut-être effectivement ça qui lui a plu, que par là encore par hasard, je sois sensible à quelque chose qui pour lui était vraiment un des noyaux les plus importants de sa collection.
Donc vous êtes depuis. C'est quelle année l'ouverture? Rappelez-moi l'année d'ouverture.
95, janvier 95.
95.
Donc on est à 20 ans.
C'est ça, il y a exactement 20 ans. Mais c'est vrai que entre 1995 et 2000, la date du. Et puis maintenant, et aujourd'hui, j'allais dire, la fondation était assez discrète. Qu'il n'y avait finalement pas énormément de. Comment dire, on a l'impression que. Et je crois que c'est une volonté de M. Bimbert d'être.
Oui.
Cette discrétion.
Oui, je pense que Guillermo pourra raconter par exemple l'inauguration et puis pas mal d'anecdotes qui éclairent assez justement cette étrangeté du projet de M. Bimbert, puisque notamment en 95, quand nous avons ouvert, selon les propres paroles de M. Bimbert, tout était fini. C'est-à-dire que les choses étaient accrochées au mur, la collection avait trouvé sa place, donc le travail pour lui était totalement achevé. La vérité, c'est que dès la semaine suivante, le virus qu'il avait toujours eu, à savoir collectionner, l'a repris. Et sur le plan des acquisitions, il y a eu de toute façon un enrichissement constant, avec des succès divers depuis cette époque-là. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il avait conçu cette fondation vraiment comme une fin en soi. Et au contraire, je pense que c'est quelque chose qui lui a donné un regain de jeunesse et de vitalité.
Et Monsieur Dosma, ces anecdotes et finalement comment vous êtes-vous arrivé à la présidence et après vous nous direz aussi quel est le rôle de chacun dans cette répartition de la
Très
répartition
bien.
des rôles.
Non, je crois que Philippe a très très bien expliqué justement cette espèce d'ambiguïté qu'il avait vers, que je racontais avant, avec cette idée d'ouvrir une collection dans un petit village à côté d'un lac en Suisse où il n'allait pas avoir des visiteurs. Et ça, c'était une chose pour lui positive, évidemment, qui nous a paru beaucoup très étrange, à moi, évidemment, très étrange. Et heureusement que finalement, la fondation a terminé dans cet endroit merveilleux. Je me souviens très très bien, un jour, je l'appelais chaque fois que je venais à Paris, je viens assez souvent, et il me convoque chez lui au fameux thé, hein, pour prendre le thé chez lui, qui était un peu le moment tranquille, le moment pour le voir. Et quand je rentre chez lui, je vois justement l'affiche de l'hôtel d'Assessa. C'est une affiche de l'office de tourisme.
L'hôtel d'Assessa, dites-nous ce que c'est que l'hôtel d'Assessa, parce que
Le
les auditeurs ne sont pas forcément encore allés à la Fondation
Ah
Bimbert,
oui,
ils ont eu
d'accord.
tort, ils iront.
Non, je crois que je laisse Philippe le dire parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est un des plus beaux bâtiments de la Renaissance française qui a été créé par Monsieur Dacessa, qui est un grand commerçant qui a fait sa grande fortune grâce au pastel. Le pastel est une espèce de chou duquel on obtenait le couleur bleu jusqu'à l'arrivée d'indigo. Et bleu que parfois on utilisait lapis-lazuli, mais c'était pour la peinture ou pour des choses très chères. Mais pour l'utilisation du bleu commun, pour les vêtements, pour tout ce qui avait besoin de cette teinture, c'était le pastel La Source. Et Dacessa a fait une grande fortune et il a commandé à cet architecte toulousain, Nicolas Bachelier, qui lui construit cet hôtel extraordinaire. Mais je pense que Philippe est alors, plus connaisseur que moi.
Alors, monsieur Rion, je vous ai interrompu, ce n'est pas très aimable de ma part, ni poli, je vous ai interrompu dans votre élan. Vous disiez que vous avez vu une affiche sur cet hôtel.
Voilà, quand je suis allé le voir dans une de mes visites, c'était probablement 2 ans avant l'ouverture, c'était probablement 92-93. Je vois cette affiche et j'ai tout de suite compris que c'était la destinée de la collection. Évidemment, il m'a raconté comme il avait rencontré le maire de Toulouse par un ami architecte qui d'ailleurs a fait les travaux de l'installation originale de la fondation et de l'hôtel Dacessa. Et c'est grâce à Patrick O'Byrne, cet architecte irlando-toulousain, qu'il a fait la connaissance de Baudis, qui a été d'une grande intelligence parce qu'il a été, il a compris l'intérêt d'avoir cette collection à Toulouse et qui complémentait très très bien les autres collections publiques ou privées qui sont dans la ville de Toulouse, les autres musées, les autres fondations. Et il était enchanté. Vraiment, il l'a trouvé. C'est vrai que quand on vous offre un endroit aussi beau...
Donc c'est la ville qui le met à disposition de la Fondation. Comment ça se passe?
Voilà, exactement. Hein. C'est la ville qui le met à disposition de la Fondation avec la condition qu'il laisse sa collection. Je crois qu'il a un accord pour 99 ans. Ah, tu peux me corriger. Il y a un accord pour 99 ans. Et c'est lui qui a payé tout ce qui a été les frais d'installation de évidemment transport, assurance, tout ce qui était nécessaire pour créer l'espace muséal qui allait contenir les objets de la collection.
Alors c'est intéressant qu'on arrive à la question du statut de la collection et de la fondation. Vous savez qu'à la Tribune de l'Art, vous ne savez pas, mais à la Tribune de l'Art, on est assez attaché à l'inaliénabilité des collections, au fait qu'une collection qui s'installe, on a 99 ans, et après, je dirais, plus tard, on ne sera plus là pour le voir, mais enfin, ça concerne nos enfants et nos petits-enfants, c'est important qu'il y ait une certaine pérennité. Alors, est-ce qu'il y a une pérennité de la collection? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas musée de France, je crois? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez devenir éventuellement? Est-ce que, au contraire, il est possible qu'un jour, cette collection soit dispersée? Enfin, quel est l'objectif de la fondation?
Non, je pense, et Philippe aura son mot à dire sûrement, mais je pense que l'idée, évidemment, je crois que, disons, c'est une collection privée qui a évolué à une fondation privée qui contient, disons, la collection. Alors, cette fondation, évidemment, veut se protéger des éventuels abus, dès qu'on lui dise qu'elle peut plus rester à l'hôtel Dacessa, qu'il faut trouver un autre endroit. C'est-à-dire, dans ces cas-là, la Fondation garde sa possibilité de terminer ses contrats de 99 ans. Mais c'est pas du tout le but de la Fondation, ni le but des possibles héritiers qui pourraient profiter de cette dispersion de la Fondation dans 80 ans aujourd'hui. Non, c'est pas du tout ça. Je crois que le but de la collection, c'est qu'elle reste à Toulouse d'une façon absolument permanente. Et je pense que quand le moment arrivera, il y aura un accord probablement permanent qui sait. Mais bon, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'est l'objectif de tous tes conseils, et évidemment moi-même. Et je crois que Philippe a sûrement...
Je crois sur cette question du statut de la collection, également sur la répartition des rôles. Là, je reviens à une question que j'avais posée tout à l'heure et je ne vous ai pas laissé développer.
Oui. Sur le statut de la collection, bon, déjà, je pense qu'il faut revenir un petit peu à la lettre, à ce que voulait M. Bimbert. Son désir, dans le cadre de cette fondation, était à la fois extrêmement flou et précis en même temps. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais épanché sur ce qu'il voulait, mais c'est tellement synthétique ce qu'il a pu en dire que ça éclaire tout à fait sa démarche et par là même notre avenir. Il voulait que la collection soit donnée au plus large public possible. Donc ça voulait dire le plus de gens possible, le plus longtemps possible, et de manière permanente. C'est pour ça que finalement on est fermé seulement, mis à part les lundis, 2 jours par an. C'est pour ça qu'il y a effectivement ce principe du bail emphytéotique et surtout, je pense, le choix de l'hôtel d'Assesa qui, c'est ce qu'il disait lui-même, était le plus beau lieu dont il ait pu rêver. Donc si vous voulez, je pense que vraiment l'intérêt de la fondation, et en ça, ça rejoint le but de M. Barber, c'est de s'enraciner, de rester le plus longtemps possible. Si on revient, j'allais dire, au deal d'origine, finalement, l'hôtel d'Assesa devait nécessairement, à très court terme, c'est un monument historique classé, être restauré. La ville en a fait le meilleur usage qui soit en y accueillant ce musée. Il se trouve que ce musée s'y trouve parfaitement bien. Donc voilà, non seulement l'idée que la fondation un jour puisse partir à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, je ne sais où, à Paris, est totalement inenvisageable. En soi d'ailleurs, est-ce que ce serait un drame? Le drame, c'est qu'une collection ne soit plus visible par le public. Mais de toute façon, il y a pérennité, et pour être vraiment précis, il y a effectivement volonté de rester toujours à Toulouse. Ça,
alors,
c'est clair.
Il y a deux choses. Il y a le rester à Toulouse, effectivement, je pense que c'est souhaitable, puisque c'est une bonne solution. Il y a aussi la pérennité de la collection dans son ensemble. Et ma question, c'est Musée de France. Est-ce que c'est une chose que vous envisageriez? Une fois qu'une collection est Musée de France, on ne peut plus la disperser. On ne peut plus la vendre. On ne peut plus avoir à la vendre.
À l'heure actuelle, je dirais qu'on bénéficie d'un statut très agréable, puisqu'on a des membres de l'État, donc, et de la DRAC, donc de l'administration, qu'on a les meilleurs rapports avec eux et que par la même occasion, on peut profiter de leurs expertises, de pas mal de missions qui sont d'ailleurs extrêmement bien faites et rendues par les services du ministère. Donc, à ce jour, effectivement, on a des rapports très étroits avec le ministère de la Culture. On n'est effectivement pas passé Musée de France dans la mesure où on a quand même des spécificités juridiques qui ont tendance, par rapport à 1994, dans l'évolution de la législation, qui ont tendance à s'estomper, puisqu'on fonctionne grosso modo à 99,9% comme un musée public au quotidien, si ce n'est que l'inaliabilité n'est pas quelque chose qui est inscrit dans nos statuts. Donc c'est vraiment une différence de degré infime plus que de nature par rapport au musée. Mais effectivement, en l'état actuel des choses, nous ne sommes pas Musée de France.
D'accord. Oui, monsieur Jossera, bien sûr, vous pouvez.
Non, c'est une question qu'évidemment on s'est posée. On a discuté au Conseil. C'est, d'un côté, il y a cette tentation qui est importante. De l'autre côté, je crois que c'est peut-être un peu tôt pour la Fondation de devenir Musée de France. Pourquoi je dis ça? Parce que on a fait, depuis la mort de M. Bambert, un des soucis importants du Conseil et les miens partagés avec Philippe, avec lesquels j'ai une grande complicité, on se parle tout le temps, et c'est justement la qualité de la collection en elle. C'est-à-dire, c'est une collection qui est très large, et très large pour l'endroit qu'elle occupe, parce qu'elle occupe même pas 800 mètres carrés, ce qui est très peu de place pour une collection qui a presque 2000 objets. Et évidemment, elle n'est pas montrée à son mieux. Et il y a beaucoup de choses dans cette large collection. On pense que c'est une collection faite par un monsieur le long de sa vie. 2000 objets, c'est beaucoup. C'est probablement un peu plus. C'est 2400 objets, non? Si je suis un peu plus spécifique. Et justement, on a fait un énorme travail sur la qualité de chaque objet. On a regardé chaque objet. Nous, des spécialistes, aussi des agents du marché, parce qu'il faut quand même. C'est bien d'avoir la différente vision et savoir aussi qu'est-ce qu'ils valent ces objets. Et justement, on est dans un processus qui est intéressant, qui est très important pour nous, qui est justement décider qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on ne va pas garder. Évidemment, on veut garder l'âme de la collection, c'est-à-dire la personnalité du collectionneur, qui est déjà assez éclectique, et ce n'est pas évident. Ce n'est pas une collection qui est de bronze ou de tableaux impressionnistes, ou de n'importe quelle catégorie du collectionnisme, mais c'est une collection très éclectique où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la hauteur de la collection en elle-même.
Donc vous envisagez, comme un musée américain, d'éventuellement de vendre des œuvres Alors pour acheter d'autres ou pour,
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le but, si on le fait, et justement on est dans ces débats maintenant.
Et vous faites un débat que vous avez avec le ministère de la Culture également avec la
Oui, oui, absolument, oui. Absolument. D'ailleurs, on a demandé la permission et elle nous a été donnée. Il faut dire aussi qu'il y a une partie importante de la collection qui est inaliénable. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui, par les statuts de la collection, par les souhaits de M. Bambert et par les conseils d'administration, mais surtout par ses souhaits, il y a toute une série de choses, évidemment les plus importantes, les meilleures, les plus connues, et les choses
qui... On reviendra sur la collection tout à l'heure. Hein.
Voilà, bon, d'accord, alors on pourrait parler de ça après.
Non,
mais, non, mais pour terminer, disons, les choses évidemment les plus importantes de la collection... Même si on veut, ils ne peuvent pas partir.
D'accord, mais ça veut dire quand même que. Parce que moi, c'est vrai que je suis par nature, même. Ça me choque quand les musées américains font ça. Donc, même si vous avez effectivement le droit de le faire, etc., c'est quelque chose qui me choque toujours un peu parce que finalement, c'est quand même. Vous dites que c'est moins intéressant, mais peut-être que demain, on s'aperçoit que c'est quand même intéressant. Et puis, M. Mabert, c'est quand même aussi lui qui les a achetés. Et c'est finalement, ça représente la. Donc.
Mais disons, d'abord, lui, il a vendu des choses qu'il a achetées.
Alors oui, mais c'est son vivant, bien sûr. Mais ça, c'est
oui,
son vivant.
Mais ça veut dire que c'était une collection vivante et dynamique. Mmh. Et on rentre évidemment dans une polémique qui est compliquée, qui est difficile. Et il y a cette dialectique toujours qui est très intéressante parce que, étant espagnol, c'est exactement à peu près les mêmes cas. Il y a toujours cette dialectique entre les privés. Et les publics, et les privés regardent avec méfiance les publics, et les publics regardent avec méfiance les privés.
C'est
qui est quand même très dommage. Et je crois que justement, on voudrait montrer qu'on peut travailler dans un autre niveau, pas dans les niveaux de la méfiance, mais dans les niveaux de la confiance, et pour améliorer ce que nous avons aujourd'hui.
De deux choses l'une, soit l'œuvre, une œuvre n'est pas importante, et vous allez la vendre pas bien, pas cher, etc. Et à quoi bon ? Ou elle est importante, et dans ce cas-là, il ne faut pas la vendre. Donc c'est...
Non, mais là, on est très clair sur ça, évidemment, les choses importantes.
Oui, ça, mais...
D'abord, elles sont inaliénables, et deuxièmement...
Mais pas importantes, qu'est-ce que vous entendez alors ? Un exemple, qu'est-ce que vous envisageriez de vendre, éventuellement, potentiellement ?
Des bougeoirs ou des candélabres, Philippe connaît mieux que moi la collection, mais il y a plein d'objets qui... D'abord, où il y en a déjà d'autres exemples de meilleure qualité dans la collection, et vraiment qui ne rajoutent rien à la collection en elle-même.
C'est un débat en tout cas.
Et qui peuvent nous permettre justement d'avoir des exemples beaucoup mieux, beaucoup plus importants, comme les tourniers.
On parlera du tournier tout à l'heure.
C'est pas quelque chose qu'on peut acheter tous les jours.
Non, parce que c'est pas en vendant des bougeoirs ou des candélabres que vous allez acheter le tournier.
Non, ça c'est sûr.
Alors dites-nous quand même, oui, Monsieur Cross, et après je reviendrai sur une chose.
D'accord.
Comment êtes-vous arrivé que président et puis quels sont vos rôles différents?
Sur le sujet de la possibilité d'aliéner,
oui, c'est ça. C'est vous qui vouliez intervenir, je crois, sur ce sujet-là.
Oui, parce que je pense que peut-être, justement, on est peut-être des trublions dans ce domaine, mais on est aussi peut-être un exemple atypique qui est très intéressant, qui peut être en laboratoire.
Ah non, pour surtout pas un laboratoire pour les musées français. Ça, alors là, je m'y imposerai complètement. Vous avez un statut qui vous permet de le faire, donc voilà, après je vous discuterai, etc. Mais vous pouvez le faire. Mais j'espère que ce ne sera pas un laboratoire pour les musées français, parce que c'est le genre de choses, à mon avis, qui...
Pour les collections.
Mais
pour les collections.
On s'est posé la question pour nous-mêmes, donc nécessairement, quand une question se pose pour un individu ou une institution, d'autres peuvent se poser la question. Pour ma part, quand vous parliez de quels étaient les objets moins importants, déjà un objet qui n'est pas important, c'est un objet qui ne sera jamais montré, parce que jamais il n'y aura l'alibi scientifique pour le présenter. Alors évidemment, en France, on a tendance à recycler beaucoup d'arguments très anciens, et il y a encore des générations de gens qui sont traumatisés par les caillebottes, et en fonction d'un...
Je vais prendre un exemple plus récent, mais vas-y.
En fonction d'un mauvais choix, d'un mauvais arbitrage fait il y a plus de 100 ans, finalement, on nous parle toujours de l'évolution potentielle de la mode. Bon, il suffit, je pense, d'être soit de la profession, ce qui facilite les choses, soit amateur d'art pour s'être aventuré quelquefois dans sa vie dans les réserves de musées. Surtout dans les réserves musées de province, j'en citerai aucun en particulier, mais on sait très bien qu'il y a certains musées qui ont des collections de plusieurs dizaines de milliers d'objets qui ne seront même pas montrés une fois par siècle, parce qu'il est clair que pour les organes scientifiques qui gèrent ces collections, ce sont des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc, effectivement aliéner de tels objets, je ne vois pas en quoi ça peut se poser problème. Et ensuite, à une époque où on a Internet, où on a des tas d'outils de communication, je pense que de toute façon, proposer, monter un dossier sur une œuvre aliénée, proposer de manière collégiale à... peut-être pas l'ensemble de la profession, mais un panel suffisamment large de personnes capables de voter oui, non ou de s'abstenir, on peut quand même résorber le risque de faire une grosse bêtise.
Alors, je vais être obligé de développer un petit peu, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Un exemple, une œuvre un peu importante, c'est par exemple une copie de Raphaël, comme il s'en trouvait dans les réserves du musée Condé à Chantilly, qui s'est avéré finalement que c'était un vrai Raphaël. Donc, si vous voyez, une œuvre pas importante, ça peut devenir une œuvre importante. Je parle de la Madone de Lorette, de la Vierge de Lorette, bien sûr. Ça peut devenir une œuvre importante parce que la science progresse, l'histoire de l'art progresse. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous parlez, dans un monde idéal, mais c'est la discussion que j'ai eue plusieurs fois avec Guillaume Chirotti, dont ici, à cette antenne, c'est lui dit on devrait pouvoir se séparer certaines œuvres pour racheter, etc. Mais dès que vous... Bien sûr, effectivement, dans un monde idéal où ce ne serait que les scientifiques qui décideraient, où il y aurait une vraie décision collégiale, on pourrait éventuellement envisager de faire ça, pour racheter des... Sauf que vous savez très bien qu'on est en France, et qu'en France, dès qu'on mettra le petit doigt, eh bien tout le braille passera. C'est-à-dire que d'abord, on vendra des choses pas très intéressantes, puis après, on dira « bah pourquoi pas ça ?» Et puis, donc, il y aura des volontés politiques, et les conservateurs sont soumis aux volontés politiques, qui diront bah, « on va vendre ça ». Le problème, c'est qu'on ne peut pas... Bien entendu, il y a des œuvres qui ne seront jamais montrées, c'est exact. Mais si vous commencez à rentrer dans cet engrenage, c'est terminé, c'est fichu. C'est ce que je pense. On ne va pas débattre plus avant, mais je tenais quand même à le préciser, puisque c'est un sujet auquel la Tribune de l'Art est sensible. Je me retourne vers Guillermo Dosma, pour oui. Savoir comment vous êtes devenu président, et quelle est la répartition des rôles entre président et directeur.
Non, moi... J'ai fait partie, d'abord, cette conversation dont j'ai parlé avant, que j'ai eue avec M. Bambert sur quand il commençait à penser à l'idée de la fondation, il m'a proposé d'être son directeur dans ce petit village suisse, que je ne connais pas le nom d'ailleurs. Et bon, à ce moment-là, j'avais d'autres projets dans la vie, et finalement, je lui ai dit que ce n'était pas les moments pour moi. Il a compris très bien, ça s'est très bien passé. Et voilà, et cette relation a continué jusqu'au jour où il a vraiment fait sa fondation, où il est arrivé à cet accord avec la ville de Toulouse. Et là, il m'a demandé de faire partie de son conseil d'administration, qui à ce moment-là était surtout la famille. Alors, j'étais évidemment très honoré. Et quand il est décédé en 2011... l'année après, un certain temps après, à ma surprise, vraiment à ma surprise, parce qu'il m'avait jamais, je crois qu'il a jamais laissé une idée de qui allait le succéder. Alors à ma surprise, à ma totale surprise, le conseil d'administration m'a demandé si je voulais être le président. Et vraiment, ça m'a pris tout à fait par... je n'étais pas du tout prévenu. Mais évidemment, je trouvais que c'était une chose merveilleuse à faire, parce que je pensais vraiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans cette collection. Il y a une étape, M. Bambert. Ça ne veut pas dire qu'on va... Évidemment, moi, je suis là grâce à lui, et je l'ai dit toujours, disons, la gratitude est claire et certe, et c'est lui qui a fait la collection, et on va garder cet esprit collection Bambert, collection Georges Bambert, parce que c'est quand même un individu qui a fait ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je pense qu'on peut beaucoup améliorer la collection, la présentation, la qualité des objets, les animations, les activités, les conférences, expositions, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et alors, j'étais ravi de pouvoir accepter. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à...
Et c'est vrai, c'est la deuxième fois que je vous rencontre tous les deux. Et donc, on voit qu'effectivement, vous vous entendez, vous êtes complètement en phase. Mais vous-même, donc, comme tout directeur, vous gérez, vous dirigez le musée en permanence. Et vous, président, vous êtes là pour le président du conseil d'administration et pour décider des grandes orientations, c'est ça un petit peu le...
C'est un peu ça. Quand il y a un projet comme l'exposition des Majoliques, on est plus complice et on travaille un peu plus l'un côté de l'autre. Je crois que pour la chance de Philippe, je suis pour le moment très occupé avec d'autres projets et d'autres choses, mes propres problèmes professionnels et autres, mes expositions, mes projets, j'écris de temps en temps, je publie de temps en temps. Alors, les temps me manquent et je crois que c'est une chance pour Philippe, parce que sinon, je serais là beaucoup plus sur son dos. Mais ça serait peut-être une bonne équipe quand alors, j'aurais plus de temps.
J'ai une question qui est venue par Twitter. La question, et je vais peut-être laisser peut-être M. Cross y répondre, c'est une bonne question à laquelle je m'associe. C'est de mon confrère Louvre pour tous, donc qui a un site consacré au musée, qui est un de ses dadas, et c'est un des miens aussi, c'est les photographies dans les musées. Il me dit, peut-être vous demander pourquoi la photo est interdite, il croit que c'est le cas, et je ne sais pas si c'est le cas, mais pourquoi est-ce que la photo est interdite dans la Fondation Bamberg?
Non,
elle n'est pas interdite. Alors c'est formidable.
Il y a une erreur là.
On fait attention avec les flashs, bien sûr, évidemment, mais non, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas d'interdiction, d'accord. Donc Bernard Askenhoff a raison de poser la question, mais
non,
effectivement, le flash, mais certainement le flash. J'ai toujours trouvé absurde que les gens photographient avec un flash dans les musées, ça se reflète et on voit strictement rien. Donc c'est complètement idiot. Ceci dit, le flash n'est pas dangereux pour les peintures, etc., comme on le pensait, mais c'est gênant surtout, c'est un peu gênant. Voilà.
Et j'en profite donc pour dire que l'essentiel des peintures anciennes et modernes ont été photographiées donc il n'y a pas très longtemps, donc pas la RMN. Donc elles sont maintenant
dans la base RMN.
Elles sont disponibles effectivement et on a enfin des photos de très grande qualité.
Alors penchons-nous maintenant sur la collection. Vous avez dit donc tout à l'heure donc la richesse des donc vous avez édité un guide des collections que j'ai entre les mains. Donc beaucoup de bronze, des peintures anciennes de la Renaissance, des majoliques. Et des peintures plus modernes, Bonnard, Vuillet, etc. C'est ça les trois points forts de la collection.
À l'origine, en 1994, Monsieur Barber a toujours l'habitude de dire les anciens, les modernes, parce qu'en fait, c'est une collection en diptyque sur deux étages. Un premier étage avec une ambiance un peu Pebble Room, et puis un accrochage de collectionneurs, et des collections donc, qui vont du 16e au 18e. Et second étage, donc les modernes, là, on passe de 1800 directement à 1860, grosso modo, aux impressionnistes, avec vraiment un gap entre les deux. Et ça, ce diptyque avec vraiment un manque délibéré dans la chronologie, ça reflétait tout à fait ses goûts. D'autant plus qu'à l'époque, en 1994, quand il inaugurait, il y avait uniquement le 16e et l'école française moderne. Le 18e lui-même était absent. C'est simplement quand le musée s'est agrandi en 2000 qu'il y a eu en fait une volonté un peu de compléter la chronologie. Mais vraiment, ça reflète ça aussi son goût collectionneur, le fait que certaines choses sont totalement absentes. Et dernier mot sur la collection, il y a une grande adéquation avec les collections de la ville de Toulouse, puisque là encore, par le plus grand des hasards, quand la collection est arrivée, on s'est rendu compte qu'elle complétait les collections de la ville. C'est-à-dire que aux Augustins, il y a de la sculpture merveilleuse en termes de sculpture médiévale, mais la Renaissance était finalement peu représentée. Il y a des peintures 17e, 18e aux Augustins, mais finalement pratiquement rien de la Renaissance et de l'époque impressionniste. Donc ça a été vraiment une heureuse coïncidence qu'on vienne compléter les collections de la ville, puisque nous, l'idée n'est pas du tout de faire cavalier seul, mais de faire partie d'une synergie. On sait très bien que les gens viennent à Toulouse pour voir le patrimoine, les musées en général, et pas une institution. Ça, j'y ai jamais cru.
Et quels sont vos liens, justement, donc avec le musée des Augustins, par exemple ?
Excellent, d'autant plus excellent qu'Axel Emery est le grand spécialiste de Tournier. Donc
alors arrivons à Tournier, donc parlons de ce fameux tableau de Tournier que vous avez acquis. Malheureusement, un seul sur les deux, puisque le deuxième devait être acheté par la National Gallery Washington, qui n'avait pas l'argent finalement. C'est formidable qu'un musée français puisse, c'est un musée français, hein, même si c'est pas un musée de France, musée français, une fondation française puisse acheter un tableau dont le pendant ne peut pas être acheté par la National Gallery de Washington parce qu'elle n'a pas assez d'argent. En même temps, c'est quand même très dommage que les œuvres soient séparées. Enfin, quand je dis très dommage, c'est vraiment très dommage que les œuvres soient séparées. Le deuxième est toujours sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez de pouvoir acquérir un jour?
Ça, je vais laisser la parole au conseil d'administration via son président, puisqu'il est
ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir un peu quels sont les... Alors, je ne sais pas si vous pouvez donner votre budget, mais quel est le budget et d'où viennent les fonds de la Fondation, comment la Fondation vit?
D'accord. Alors, la Fondation vit du legs de M. Bamberg. C'est lui qui a laissé pas simplement les œuvres, mais aussi suffisamment d'argent pour que la Fondation puisse tenir, pas 99 ans, mais en pérennité, jusqu'au jugement dernier, espérons. Alors ces fonds, comme beaucoup de fondations, il y a un fonds qui a des rendements, heureusement, Et c'est grâce à ces rendements qui n'avaient pas été utilisés depuis la mort de M. Bamberg et même les dernières années de M. Bamberg, parce que parfois il achetait avec son propre argent, pas avec l'argent qui était à la fondation. On avait un argent qui nous a permis de faire cet achat. Malheureusement, il ne nous a pas permis de faire l'achat double, c'est-à-dire d'acheter les deux tableaux. Chose qu'on souhaiterait, qu'on envisage d'une façon modeste, parce qu'on est évidemment assez touché après cet achat, touché financièrement, je veux dire. Mais on aimerait beaucoup, j'ai eu des conversations après, et c'est la porte est ouverte. Bon, il faut, évidemment, j'ai demandé qu'on nous traite particulièrement bien après avoir fait l'effort qu'on a fait pour le premier tableau, qui a été, comme vous dites, une belle victoire, entre guillemets, mais c'était une belle action.
D'autant plus que c'est des tableaux qui étaient en France, et malheureusement qui ont eu leur autorisation de sortie. J'espère en tout cas que leur autorisation de sortie a été demandée, je le pense, puisque je sais que le Marcon, qui s'en est occupé, quelqu'un qui habite en France et qui connaît parfaitement, et puis que je pense pas qu'il... Donc il y a forcément eu l'autorisation de sortie. C'est un peu dommage, finalement, que ces tableaux aient eu l'autorisation de sortie. Ils auraient mérité, je crois, peut-être, d'être retenus en France... Parce qu'ils viennent d'un hôtel particulier de Toulouse, hein, on le sait.
Oui. Ça vient d'une collection très connue de Toulouse. Et on ne sait pas très bien exactement le parcours. En tout cas, moi, je ne connais pas très bien le parcours exactement, qu'est-ce qui s'est passé, surtout au 19e et début 20e. Ça, je ne connais pas vraiment.
Mm-hmm. Je crois que personne ne connaît ça.
Mais c'est bien aussi. Les choses doivent avoir une vie un peu naturelle. Les tableaux.
Oui, mais ce qui est dommage, c'est que les tableaux soient séparés. Ça, c'est quand même.
Oui,
dommage.
Non, là, on est d'accord. Évidemment, un des projets qu'on a et dès qu'on pourra, on va les mettre en route, c'est évidemment de les montrer ensemble. On aimerait bien les montrer ensemble ici. C'est ce que j'ai su, mes dernières nouvelles que j'ai eues. Sont qu'il y a deux institutions américaines qui s'intéressent, parce que les tableaux, comme vous le savez, sont aux États-Unis. Les deux étaient aux États-Unis, est à Toulouse, l'autre reste aux États-Unis. Il y a deux institutions intéressées. S'il n'y a pas un accord et si nous, on peut avoir l'argent suffisant pour les acheter, peut-être qu'on verra les deux tableaux à Toulouse. Mais si ça, c'est pas possible, l'idée, c'est évidemment de demander un prêt pour un prêt assez long et éventuellement, on serait prêt, nous, à laisser notre tableau partir pour qu'il soit aussi montré pendant une longue période suffisamment longue que les tableaux soient montrés ensemble. Ça serait une belle action et qu'on est évidemment très prêt à... On aimerait beaucoup la faire.
Alors, j'avais parlé il y a déjà un petit moment de certaines acquisitions de la Fondation. Je crois qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'acquisitions dans les dernières années, je crois. En revanche, quand M. Bamberg est mort, il vous a donc légué des œuvres qu'il avait gardées pour lui, de votre collection personnelle. Donc, je crois que vous nous parliez avant de l'émission d'un Daumier.
Oui, il y a un très joli panneau de Daumier qui était un tableau qu'il avait... À New York, faut aussi peut-être parler rapidement de ces résidences, parce qu'elles sont, ces œuvres, les émanations un petit peu des lieux dans lesquels il vivait. Il y avait d'abord ce qui était son quartier général, ce qu'il appelait le Dragon, l'hôtel particulier de la rue du Dragon à Paris, où il a vécu jusqu'en 2011. Et c'est un hôtel qu'il avait acheté après-guerre, un petit peu... comme il était un petit peu compliqué, un petit peu bizarre, un endroit avec des recoins, des pièces, et donc beaucoup des objets de la fondation viennent de là. Il y avait ensuite l'appartement de New York, où il avait finalement une autre ambiance, un autre cadre de vie, finalement très peu d'œuvres françaises, dont ce Daumier, qui était un des clous de sa collection là-bas.
Et alors, c'est, par exemple, ces habitations, ça n'a pas été légué à la Fondation. Il a une famille qui a hérité de cela. Comment ça se passe? La famille est toujours présente?
Non, la famille est évidemment très présente. C'est une famille qui a toujours été très liée et qui reste toujours très liée. C'est une chose vraiment admirable, parce qu'ils sont déjà à la cinquième génération. Ça veut dire qu'ils sont maintenant, je ne sais pas, une centaine, et ils ont un lien extraordinaire entre eux. Évidemment, ils sont présents à la Fondation, très présents à la Fondation. Mais en ce qui concerne les demeures, ça a été légué à la Fondation. La rue Dragon appartient à la Fondation.
Donc ça fait partie de vos sources de revenus.
Voilà, ce qui est très important, parce qu'elle a été, réarrangée, redistribuée, pour justement créer des logements qui sont loués, qui sont bien loués, et qui représentent une source très intéressante pour la Fondation. Il y a aussi de l'immobilier ailleurs qu'il a légué à la fondation et ça, évidemment, pour nous, était formidable.
Et alors, au point de vue acquisition, qu'est-ce que vous envisagez comme politique d'acquisition dans les années à venir, en dehors d'éventuellement acheter le deuxième tournier?
Alors, je vais laisser à nouveau le conseil d'administration parler
par la voix de son président. Peut-être que vous avez des propositions à faire.
Alors, justement, moi, j'allais dire... Ma politique, c'est pas de politique. Dans ce domaine, je pense que les choix de Monsieur Bimbert étaient suffisamment larges et variés pour que on puisse, j'allais dire, avoir beaucoup d'axes différents. À mon sens, il y a deux axes privilégiés. Le premier, c'est rester dans la logique des groupes d'œuvres qu'il a constitués, c'est-à-dire des bronzes, de l'orfèvrerie allemande, des émaux limousins, une collection Renaissance, une collection de 35 tableaux de Bonnard. Voilà, il y a des groupes... où il faudra, je pense, chaque fois apporter un chef-d'œuvre. Quelque chose qui soit, si c'est un émail limousin, il faudra qu'il soit vraiment très beau. Si c'est un bronze de Renaissance, il faudra qu'il fasse la différence, qu'il complète. Et à côté, l'autre axe, à mon avis, de développement, il devra, je crois, compléter, là c'est plutôt dans le cadre de la peinture, compléter peut-être les manques qu'il y a en termes d'école, de chronologie, de qualité. Donc là, on ira peut-être un peu plus vers une ouverture, à savoir, par exemple, peut-être un très beau tableau 17e, alors qu'il y a finalement très peu de tableaux 17e. Mais en aucun cas, je pense qu'on achètera un vase Ming ou un reliquaire Kota ou voilà, une porcelaine japonaise. Ça m'étonnerait, en tout cas.
Qu'en pense le conseil d'administration?
Non, tout à fait d'accord. C'est-à-dire, je crois que dans tous... pas simplement dans les musées et la culture, mais l'essence commune est quand même une grande vertu. Et l'essence commune nous dit que, bon, d'abord, on a l'espace que nous avons. On aimerait beaucoup pouvoir occuper les restes de l'hôtel ACESA, mais je pense que c'est pas...
Parce qu'il est occupé, parce que l'hôtel ACESA n'est pas occupé que par vous?
Non, est occupé encore par les académies qui ont une représentation importante.
Ah oui, c'est ça. Comment ça...
Bon, il y a beaucoup d'académies, parce qu'il y a la plus vieille, je pense, si je ne me trompe pas, c'est la plus vieille académie de France, c'est l'académie de jeux floraux.
Les jeux floraux, c'est
de
ça.
De jeux floraux toulousains. Il y a aussi l'Académie d'archéologie, d'histoire. Voilà, il y a toute une série d'académies qui sont pressantes et qui sont nos voisins avec lesquels nous avons de très bonnes relations.
Mais vous voudriez quand même prendre leur place.
Évidemment, eux, ils voudraient prendre la nôtre, et nous, on voudrait prendre la sienne. Bon, ça, c'est aussi normal.
Oui.
Évidemment, c'est un souhait normal, qu'évidemment, on sait qu'on ne pourra pas le faire et on accepte très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça veut dire que nous avons l'espace que nous avons. Alors, créer ou essayer de remplir le espace historiquement parlant. Par exemple, disons, la peinture ancienne termine avec Boigny, et après, ça commence avec les pré-impressionnistes. Alors, le 19e n'est pas tout pressant. Il n'y a pas un Courbet, il n'y a pas un Bocoro. Mmh. Des tableaux qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des très, très, très belles choses pour des prix assez raisonnables. Mmh. Mais là, on a décidé... Et on est tous d'accord, disons les conseils, Philippe, les membres, les personnes auxquelles nous avons demandé conseil, que ça ne vaut pas la peine de créer de nouveaux axes à cette collection. Il faut améliorer sur les axes que nous avons, c'est-à-dire avoir la meilleure qualité possible dans nos budgets. Hein. C'est-à-dire des pièces historiques qui ont des belles provenances et qui sont significatives dans leur domaine et qui vont faire lever ce que nous voudrons, c'est que la collection soit plus haute, plus importante, plus belle.
Voilà, et vous avez beaucoup de choses en réserve que vous pourriez exposer actuellement?
Rien. Non, on a vraiment...
Alors pourquoi avoir plus de place finalement? C'est pour... Pourquoi avoir plus de place si vous êtes dans les réserves? Il n'y a pas de choses que vous voudriez faire, d'accueil pour le public, des choses comme ça?
Non, parce que je pense que déjà, la politique d'acquisition nécessite un petit peu plus d'espace, mais surtout le déploiement des collections dans un espace aéré qui permette vraiment d'appréhender chaque œuvre de manière autonome, ça c'est absolument indispensable, parce qu'en l'état actuel des choses, on a certains très beaux tableaux, je pense à un Vigée Lebrun, pour n'en prendre qu'un comme exemple, qui est littéralement parasité par un ensemble d'œuvres beaucoup plus secondaires, plus mineures, qui n'étaient que vaguement voulues par M. Bimbert, parce que finalement, il achetait les choses en surabondance avec l'idée qu'on pouvait finalement les présenter ou ne pas les présenter dans un musée. On préfère quand même essayer de présenter les choses. Et on est aujourd'hui à un degré d'encombrement qui est vraiment parasitaire par rapport aux plus beaux tableaux.
Donc, pour mieux répartir les collections.
Voilà, absolument, si on doit les garder.
Et est-ce que vous avez le droit de... Est-ce que vous envisagez ou vous avez la possibilité de recevoir des donations extérieures de, je sais pas, des amis de M. Bimbert qui voudraient donner, ou des extérieurs qui se disent, bah, tiens, la Fondation Bimbert, c'est très beau, j'ai une belle chose à offrir, est-ce que c'est possible?
Je crois que M. Bimbert était un peu réticent sur ce sujet. Moi, dans les dernières années de sa vie, il y avait un réflexe, je crois, qui est assez caractéristique des personnes âgées, une sorte de repli, notamment en termes de conseils, puisque pendant des années, pour les acquisitions, il me demandait mon avis sur chaque acquisition potentielle, et dans chaque cas, il suivait son propre avis. Donc, en clair, c'était une demande purement formelle, mais de toutes les manières, je donnais mon avis, mais je sais qu'il ne comptait absolument en rien dans ses choix. Ce qui est d'ailleurs intéressant, ça veut dire que c'était un collectionneur qui ne suivait que son goût. Dans les dernières années, on est passé à un stade supérieur, c'est-à-dire que je n'entendais même plus parler des acquisitions. Il achetait des choses assez régulièrement, qu'il envoyait à la fondation, j'en étais avisé par sa secrétaire. Donc, il y avait vraiment une sorte de repli. Et un jour, on a évoqué l'idée des amis du musée. Il m'a dit... Pas d'amis, pas d'ennuis. Donc ça résume un petit peu. Oui, c'était une boutade, mais je pense que pour les donations,
c'est pas forcément une association d'amis. Ça peut être simplement quelqu'un qui a une belle œuvre, un beau bronze, qui va vous le donner. Ce serait bête de le refuser, non ça...
Écoutez, moi personnellement, je ne serais pas du genre effectivement à bouder à une très belle donation, mais savoir ce que M. Bimbert en pensait, ça, c'est plus délicat.
Je crois que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est rencontrés que M. Bimbert pensait qu'on devait parler deux fois d'un homme dans sa vie, à sa naissance avec le faire-part et
totalement.
À sa mort.
Oui.
Donc en fait,
deux fois dans le journal.
Voilà, deux fois dans le journal, c'est ça, il y avait deux fois dans le journal. Bon, ça prouve quand même, vous avez un petit peu changé, parce que finalement, l'achat du Turnier, et je trouve que finalement, à moins que ça soit une volonté express de M. Bimbert, je ne crois pas que ce soit le cas, l'achat du Turnier, s'il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez le faire. Je pense que ce que vous faites finalement, c'est de montrer plus, de faire plus parler de la Fondation, d'acheter des choses importantes, etc. Donc voilà, c'est pas force. Je ne suis pas certain que ça. Il savait bien que les choses iraient sans lui, ça serait peut-être un petit peu différent, mais il ne l'a pas interdit.
Ah non, je pense qu'effectivement, curieusement, il n'a pas du tout préparé l'avenir et il avait confiance, je pense, en l'avenir. C'est-à-dire qu'il avait une vision assez rigide des choses, mais paradoxalement, il y a des gens qui veulent justement figer le futur, l'avenir, en fonction de ce qu'était leur vision des choses. Lui, au contraire, on a l'impression que vraiment, quand il a passé le relais, il l'a passé en faisant confiance aux gens. C'est-à-dire que... En quelque sorte, c'est aux conditions de ceux qui prendront la suite. Et moi, je trouve que c'est un bel hommage qu'il donnait finalement, un beau gage de confiance qu'il a donné à Guillermo, au conseil d'administration et à tous les gens qu'il connaissait, parce que finalement, il était sans inquiétude. Donc, c'était un petit peu le contraire, d'après moi, le déluge. C'est-à-dire, de mon vivant, je fais les choses comme je les aime, mais après, d'autres s'en occuperont bien pour moi.
Très bien. Alors, une dernière chose, c'est... Alors, sauf erreur de ma part, je ne crois pas me souvenir d'exposition. En tout cas, je n'ai pas vu l'exposition à l'hôtel au musée Bimbert que j'ai visité une ou deux fois quand je suis allé à Toulouse. Là, en revanche, je me préparais une exposition. Alors, quel est le programme d'exposition que vous voulez faire? Et effectivement, là, il n'y a peut-être pas assez de place pour faire un... Ouvrez-vous l'exposition, puisque s'il n'y a pas beaucoup de place, comment allez-vous faire?
Voilà. Il a eu d'exposition au début, mais c'est vrai que ça durait peu de temps, et c'était aussi cette personnalité curieuse, M. Bimbert. Il voulait, à un moment donné, il nous a dit au conseil, je suis pas intéressé par l'exposition temporaire, finalement, voilà, ça ne rajoute rien au musée, et bon, mais on a terminé l'affaire. Mais comme disait Philippe avant, je crois que c'est important de récalquer ça, je crois que lui, il avait sa façon de faire les choses et il avait le privilège de le faire tel qu'il le pensait, qu'il le voulait, qu'il le souhaitait. Et je crois que ça, c'est aussi les privilèges de collectionneur, évidemment. Et de celui qui fait, qui construit, qui bâtit quelque chose, il a le droit de le faire selon ses voeux. Et ça, c'était parfait. Mais après, il a compris parfaitement bien qu'après, ça pouvait être différent. Disons, on ne va pas contre courant, on ne va pas contre M. Bimbert. On veut faire des choses que peut-être il n'aurait pas tout à fait été pour, mais je pense que finalement son souhait, comme l'a dit Philippe avant, était que la collection soit connue, soit visitée, et qu'on peut participer de cette collection à la plus grande partie de gens. Et je crois que c'est dans ce but que nous travaillons aujourd'hui. On a envie de faire, parce qu'on a une petite équipe et on n'a pas énormément de place, comme je l'ai dit avant, on a envie de faire chaque année une collection sur le thème du collectionneur.
Une
exposition, mais sur le thème de la collection, c'est-à-dire une collection créée par quelqu'un qui peut être dans un musée, comme notre projet pour les 20 ans, de notre existence. Et ça va être une très belle exposition sur la collection de Majelic Gilet, qui est au musée des Arts Déco de Toulouse, de Lyon, et qui est une des, probablement la plus belle collection formée par quelqu'un, créée par quelqu'un, de Majelic au monde. Et on va faire ça au mois de juin, juillet, jusqu'au début septembre. Et on aimerait beaucoup chaque année, sur ces thèmes de la collection, faire une belle exposition.
Et vous, elle aura lieu où? Dans quelle salle? Vous enlèverez des pièces des salles?
On a des salles. On a fait des projets où on a enlevé des pièces. On a fait un très beau projet et on aimerait beaucoup continuer avec ça. Notre côté un peu contemporain, on a fait un très beau projet avec le Festival du Printemps Toulouse, dont on a exposé aux salles des musées. Alors on a dû enlever le tableau de la collection permanente, une exposition de Howard Hodgkin dans les salles des musées, qui a eu un grand succès. Et ça a été très beau de voir ces salles avec autre chose au mur. Et ça, je crois que nous a donné envie de réviser beaucoup de choses, de revoir la collection, même l'installation de la collection qui est en débat, qui va sûrement avoir lieu bientôt, parce qu'on va devoir le faire. Alors cette idée, c'est on a des salles au sous-sol qui sont magnifiques, sont des salles voûtées en briques, qui sont magnifiques pour des expos, surtout pour tout ce qui est objet, pour des arts décoratifs. Le Majelic, l'exposition des Majelic aura lieu là. Je pense que ça va être une exposition magnifique et très belle. C'est parfait pour l'argenterie, pour les boîtes en or, pour les bronzes.
Ce sont des Majelic qui ne sont pas forcément exposées à Lyon, ou elles sont exposées à Lyon toutes?
Elles sont exposées à Lyon, mais cette année, Lyon commence un projet très important des réinstallations du musée des Arts Déco. Et donc, on va profiter justement de ce moment-là pour pouvoir les montrer ailleurs.
Un dernier mot, M. Cross ou M. Josmat, on va conclure l'émission.
Peut-être notre président va conclure. Moi, juste pour dire qu'effectivement, les expositions temporaires, c'est une chose extraordinaire parce que c'est les forces vives d'un musée. La collection, c'est effectivement ce qui attire les touristes année après année. Mais pour garder, je pense, un lien avec la population d'une ville, avec vraiment le tissu local, ce sont les expositions temporaires qui font que les gens finalement reviennent et redécouvrent un petit peu le musée. Alors, moi, pendant notamment les dernières années de la vie de M. Mabert, ce qui était un petit peu frustrant, il faut quand même dire les choses franchement, c'est que à côté de la gestion stricto sensu de l'institution, qui n'est jamais quelque chose de spécialement exaltant, il n'y avait pas la satisfaction en fait d'un véritable projet d'exposition temporaire pour associer les Toulousains à l'institution et les faire revenir. Maintenant, grâce à cette nouvelle politique, je pense que c'est vraiment notre retour dans le temps réel, finalement. On sort un petit peu de cet état de stase dans lequel on vivait pour être à nouveau en contact avec un public local. Et pour moi, c'est vraiment très, très important.
Un dernier mot, M. Josmat, pour clore l'émission, puisque j'ai posé toutes les questions que je voulais et vous y avez toutes répondu.
Merci. Non, je crois que même si on n'a pas les moyens des grosses fondations, genre la Getty ou des choses comme ça, on est très ambitieux. On voudrait faire les choses très bien d'un côté, c'est-à-dire il ne faut pas se tromper sur l'aliénation des objets, mais je crois qu'il y en a.
C'est le petit point sur lequel effectivement.
Oui, mais je crois qu'il y en a. Qu'on a les idées très très claires. Hein. On est d'une prudence extraordinaire. Hein. Alors on va pas faire des erreurs, mais ça va nous permettre.
J'ai pas tellement peur que vous fassiez des erreurs. J'ai plus peur de l'exemple que ça pourrait donner Musée français. J'espère que...
Non, mais c'est... Bon, l'exemple existe parce que ça, il y a d'autres pays qui le font. Mais je crois que dans les cas de la Fondation, les idées sont très claires. Ça va être d'un conservatisme incroyable. Et ça va nous permettre de montrer très bien les objets. Je crois que ça c'est un des grands projets qu'on doit entamer bientôt, c'est-à-dire la représentation de la collection. Ce qui s'est passé avec cette continuelle apportation de tableaux, c'est que maintenant, dans la salle vénitienne, il y a des tableaux anglais, il y a des objets qui ne correspondent pas à l'esprit initial de la collection. Le Cranach est dans la partie française 18e, les derniers Cranach, parce qu'il y en a plusieurs dans la collection. C'est-à-dire, bon, il faut revoir ça. Ça, c'est un des grands projets. Et on est ambitieux. On voudrait que ça soit une fondation du 21e siècle. On aimerait beaucoup continuer cette relation avec les festivals du printemps de Toulouse pour la partie contemporaine. Et voilà, je pense qu'on a les moyens, la capacité de le faire. Et on a un compromis très, très important pour vraiment le faire.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu à cette émission. Et donc, je donne rendez-vous la semaine prochaine. L'invité n'est pas encore défini, mais normalement, il y aura une émission jeudi prochain à 18h, comme d'habitude. Merci, bonne soirée,
merci.
Au revoir.
Merci beaucoup.